C'est bon. Bon, alors, on a parlé tout à l'heure de l'État, hein, de l'apparition d'État et des modifications du sacré, hein, de la notion de sacré qui s'ensuit. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ce sacré associé à l'État? C'est que dans la Bible, on a vu Abraham et on a noté les ruptures qu'il y avait eu dans ce texte par rapport au sacré primitif. Mais le temps va s'écouler dans la Bible. Hein. Abraham, alors, connaissait toute l'histoire de ses descendants. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob va avoir 12 enfants. Et puis, bon, il y a la fameuse histoire du dernier, Joseph, hein, qui va être tué par, enfin, tentative de meurtre par ses autres frères. Et il se retrouve en Égypte, vendu esclave en Égypte. Et là, en Égypte, il fait carrière. Il devient, bon, vous connaissez l'histoire, il devient gouverneur d'Égypte. Et alors après, sa famille restée en Canaan, il est gouverneur d'Égypte, mais bien sûr totalement ignoré de ses frères. Hein. Et arrivent des famines, et du coup, ses frères vont en Égypte pour trouver du pain, puisque en Égypte, il y a encore du blé, hein, il y a encore du blé, grâce justement à ce Joseph. Hein. Qui avait interprété des songes et qui a pu prendre des décisions pour stocker du blé pendant 7 ans et permettre de passer 7 ans de famine. Et donc, toute l'histoire du pardon qu'on a détaillé entre la relation entre Joseph et ses frères. Et ça se termine bien. Après moult épisodes plus ou moins tendus, et finalement toute la famille va en Égypte. Elle est accueillie par le pharaon et s'implante en Égypte. Donc le peuple descendant d'Abraham se trouve en Égypte. Et en Égypte, c'est un empire dirigé par un pharaon, avec ces histoires de domination, de dominant et de dominé. Et le peuple des descendants de Jacob, qui sont des émigrés, hein, et en plus, c'était ils élevaient des moutons, c'était des éleveurs, et dans la société égyptienne, c'était pas franchement la classe. Hein.
Ça continue comme ça.
C'est pas l'élite. Hein. Donc, pour Josette. Hein, même... et donc, tous les descendants d'Abraham vont devenir esclaves. Donc, fait partie de la classe des dominés et vont être esclaves du pharaon. Et alors là, c'est le livre de l'Exode qui va raconter cet épisode. Donc, vous voyez, vous avez une promesse faite à Abraham d'un peuple, et ce peuple, affronté aux empires, se trouve dominé, pour ne pas dire écrasé, hein, sous la... Et alors, là, bon, je ne reprends pas toute l'histoire de Moïse, mais Moïse va être chargé, il va être chargé de sortir le peuple d'Égypte. Là aussi, il faut placer dans le contexte. Un empire sacré, les dieux, la domination, elle est inscrite chez les dieux, d'une certaine façon. Et il y a un personnage qui s'appelle Moïse, qui va voir le pharaon et qui lui dit il faut libérer ce peuple. Il s'adresse à un dieu, un demi-dieu au moins. et il lui donne un ordre. Vous voyez que c'est un totalement inimaginable. Ouais.
Sauf quand même que tu n'as pas dit que Moïse avait été élevé par la fille du pharaon.
Il a, oui, mais il s'adressait à un pharaon qu'il ne connaissait pas.
Ah
Oui,
oui,
parce qu'il a
enfin, il
fait un
avait
seul.
quand même été
Il
dans la
avait, il
famille.
connaissait le milieu,
Il était
disons.
habillé.
Il connaissait le milieu, mais enfin, comme il avait tué un général, enfin, pas un général, mais un fonctionnaire égyptien, il n'était quand même pas dans une situation de force pour venir s'adresser au pharaon. Et bon, il y a toute cette histoire de, où il ne veut pas y aller, bien entendu. On lui demande d'y aller, il dit, mais en plus, il ne sait pas parler. Donc il refuse, et puis il y avait insiste, et puis et finalement me disent, bah, écoute, envoie qui que tu veux, mais pas moi. Alors il avait fini par céder, et lui dit, bon, bah, écoute, tu dis que tu sais pas parler, mais c'est moi qui t'ai donné la parole. Et si je te demande d'y aller, hein, c'est moi qui te donne la parole, donc je serai avec toi. Bon. Déjà, il faut avoir confiance. Hein. Moi, je ne sais pas parler, je ne suis pas un orateur, il faut que j'aille voir le pharaon. Bon. Ça paraît totalement, totalement impossible, dérisoire. Enfin. Et il finit par y aller quand même. Bien entendu, il se ramasse allègrement. Et le pharaon qui ne supporte pas cette idée, oh, il me dit, puisque c'est comme ça, on va doubler la charge de ces Hébreux, on va leur donner encore plus de boulot. Si en plus ils réclament une liberté, c'est qu'ils n'ont rien à foutre. Hein? C'est que, donc la solution, c'est de les écraser encore un peu plus. Comme ça, ils n'ont même pas la force de réclamer quoi que ce soit. Non. Et donc c'est ce qui se passe. Du coup, le peuple se révolte contre Moïse, puisque Moïse dit, tu vois, c'est à cause de toi, tu as été réclamé. T'as fait des réclamations, et bien notre situation est encore pire. T'aurais mieux fait de la fermer et de rester soumis. Bon, et là, ce Dieu, il avait dit à Moïse, recommence, retourne-y. Bon, et ça va, il va y aller une douzaine de fois. Et il va y avoir une sorte de concours, de magie. Là, on est, ah oui, ce que je n'ai pas trop développé, mais c'est que dans cette pensée primitive, c'est une pensée magique. Hein? C'est une pensée magique en sens qu'il y a des choses. La magie, hein, c'est la possibilité de faire des choses extraordinaires. Hein? Donc des forces, d'actionner des forces surnaturelles, extraordinaires. Et ce Yahvé, pour donner du poids à Moïse, lui donne un pouvoir magique. D'une certaine façon, pouvoir magique. Ce qui est pouvoir magique, qui est, je dis ça entre parenthèses, qui va être condamné par toute l'histoire biblique. C'est là où il y a toujours ces paradoxes. Hein. C'est que la pensée magique va être condamnée par la Bible. Mais, en l'occurrence, pour le moment, c'est la seule moyen d'accéder au pharaon. Parce que le pharaon n'entendra que des actes magiques. Donc, il y a une sorte de concours extraordinaire entre Moïse et les mages, les magiciens du pharaon. Alors ils commencent par faire quelque chose, Moïse croit impressionné et les mages du pharaon arrivent à faire la même chose. Et ainsi de suite, ça monte. Et alors à ce moment-là, il va enclencher des catastrophes. Ça va être ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte pour convaincre le pharaon. Forcément, le pharaon, il ne va pas être convaincu du tout, du tout, du tout. C'est complètement en dehors de son champ inimaginable. Donc, il va falloir mettre le paquet et ça va être les 10 plaies d'Égypte. Et après chaque plaie, bon, à un moment donné, le pharaon commence à faire marche arrière. Il dit, bon, si c'est comme ça, bon, allez-vous-en. Mais n'allez pas trop loin. Enfin, bon, toutes sortes de conditions. C'est assez comique, hein, d'ailleurs, à lire en connaissant cet arrière-plan. Et
C'est un
puis,
peu dégoûtant aussi.
c'est un peu dégoûtant aussi, il y a des insectes, les sauterelles, les moustiques, enfin, pour toutes sortes de malheurs, hein, qui tombent sur l'Égypte. Et finalement, comme il ne veut rien entendre, c'est le massacre des enfants, des enfants égyptiens. Et là, les enfants de l'empereur, du pharaon. Et alors là, les mages et tout ça commencent à dire, écoute, laisse-les partir. Laisse-les partir. Et ils les laissent partir. Mais une fois partis, une fois qu'il les a laissés partir, il s'empresse de regretter de les avoir laissés partir et il court après. Donc c'est toute la sortie d'Égypte avec la mer qui s'entrouve, toute cette symbolique de la sortie d'Égypte. Hein. Et enfin, le peuple va être libéré. Libération. Alors, ce récit de libération est une rupture là aussi totale, non plus avec le sacré des primitifs, mais avec le sacré impérial. Avec le sacré impérial, c'est qu'il ne respecte pas ce sacré. Il y a, comment dire, c'est pas dérogé, mais tu avais utilisé le mot, où ils sortent de ce qui est permis, enfin de ce qui est imaginable. Et c'est par une action individuelle, une action de Moïse, pour sortir le peuple. Voilà, donc cet épisode-là va indiquer une sortie du sacré de type despotique, impérial, hein, qui est finalement condamné par ce Dieu. Donc ce Yahvé. Hein, s'oppose frontalement au sacré de l'époque. S'oppose frontalement au sacré puisqu'il va libérer. Alors, ce Dieu se manifeste sous la forme d'une liberté, d'une libération. Et là, il faudra se souvenir, hein, que cette caractéristique va se poursuivent tout au long de l'histoire biblique. Il faudra bien lire, et ça sera dit, qui c'est une libération. Il faut bien l'entendre parce que très souvent, dans l'ère post-chrétienne, enfin chrétienne, enfin plutôt post-révélation évangélique, l'Église va reproduire ce sacré de type empire. Souvent. Mettra un bémol dans son enseignement sur cet aspect libérateur. Et il y a des raisons. Il y a des raisons, que, les mêmes raisons que les empires, qui parce que ce sacré de l'empire était destiné à créer la stabilité. Or, en libérant ces tribus de l'Empire, ça déstabilise profondément. Parce que s'il y en a qui font ça, ben pourquoi les autres ne vont pas suivre? Et alors, s'il n'y a plus d'esclavage, où va-t-on? Hein? S'il n'y a plus de dominants dominés, où va-t-on? Ça va être un facteur d'instabilité profonde. Voilà. Donc là, Yahvé se manifeste sous cet aspect-là. Et il libère son peuple. Mais ce peuple, quel est, pour faire un peuple, il y a des composantes, un peuple. Il faut quoi? Un territoire, un gouvernement, une religion. Là, il n'y a pas de peuple sans religion, hein, à ces époques-là. Donc il faut un territoire, il faut un gouvernement, il faut une religion, et il faut des règles. Hein, des règles et des coutumes qui permettent le vivre ensemble. Or, il est dit dans le texte que bon, c'est une tribu qui était esclave. Cette tribu, elle faisait partie de l'Empire égyptien. Elle n'avait pas, à part une vague.